les militaires ont compris que ça faisait partie de leur intérêt de respecter la distance, parce que l'État bissau-guinéen est extrêmement dépendant de l'aide internationale, et les gens voient bien que l'aide internationale viendra uniquement si le jeu institutionnel est respecté. Et donc il me semble que dans l'armée bissau-guinéenne, effectivement, Tel Melawai était clairement une incarnation de ce courant-là, il y avait la volonté de jouer le jeu plus ou moins selon les règles. D'autre part, il faut bien voir que le jeu actuellement, maintenant que Nino Vieira en est sorti par la force, il joue vraiment finalement à l'avantage du PIGC, donc le parti historique, ancien parti de Nino Vieira, mais qui était devenu un parti opposé à Nino Vieira, et que beaucoup de militaires ont des liens avec le PIGC. Donc finalement, le parti au pouvoir, hein, qui a remporté les élections législatives, le parti du Premier ministre Carlos Gomez Jr., finalement, aux yeux des militaires, probablement un partenaire plutôt crédible.
Donc Vieira a échappé aussi à une tentative d'assassinat fin novembre, et je voulais vous demander pourquoi est-ce que l'armée, ou tout du moins une partie de l'armée, n'aimait pas Vieira ?
Nino Vieira lui-même est un militaire, un ancien militaire, c'était un des principaux responsables de l'armée de libération, qui a fait la guerre contre l'armée portugaise pour libérer la Guinée-Bissau, donc en 1974, et il était devenu lui-même président en 1980. Et pour comprendre exactement pourquoi maintenant dans l'armée on trop poursuit, c'est une sorte de logique d'affrontement un peu évidente. On a fait la guerre ensemble et puis soudain il y en a un qui passe devant. Voilà, on n'est plus si égaux que ça, finalement, après avoir contribué ensemble à la lutte. Les 18 années de pouvoir de Nino Vieira, entre 1980 et 1998, ont quand même suscité beaucoup d'insatisfaction en Guinée-Bissau, en particulier au sein de l'armée, au sein des anciens combattants, qui estimaient avoir des droits particuliers au soutien de l'État.
Donc vous dites, il y en a un qui passe devant, donc en l'occurrence Vieira. Est-ce qu'il a abusé de ses pouvoirs contre l'armée aussi ?
Pendant cette période-là, il y a eu toute une série de tensions et de purges au sein du système politique bissau-guinéen qui se sont conclues par l'arrestation, l'emprisonnement, la torture, parfois l'exécution de toute une série de responsables militaires souvent. Le général Tel Melawai, donc le chef d'état-major qui est mort avant-hier, avait été arrêté en Guinée-Bissau sur les ordres de Nino Vieira et avait été détenu et torturé pendant les années 80. Il y a ce vieux contentieux-là. Plus directement, il y a aussi le rôle persistant de l'armée dans les luttes politiques en Guinée-Bissau, fait que différents morceaux de l'armée sont dans les luttes factionnelles, sont liés au pouvoir et participent aux affrontements entre partis politiques, participent au jeu pour le contrôle du pouvoir. Et donc, c'est pour ça que Nino Vieira, étant évidemment un personnage central de ces luttes, a été pris à partie par l'armée.
Est-ce qu'il ne faudrait pas non plus une réforme de l'armée pour éviter ce genre de situation ? Donc déjà cet assassinat, mais aussi tous ces putschs qui s'enchaînent les uns derrière les autres.
Il y en a plusieurs. Je crois que c'est la quatrième en ce moment qui est en cours, depuis 1998. Une tentative donc pour recenser les militaires, en démobiliser certains, essayer de réduire les effectifs, etc. Puis aussi faire de la formation aux droits de l'homme, à la bonne gouvernance, etc. Le fond du problème, il est effectivement plus dans comment est-ce qu'on fait un pays équilibré avec une économie qui marche, avec un État qui rend des services de manière un peu satisfaisante, et où finalement les gens sont en train de se battre pour essayer d'entrer dans l'armée parce que c'est une des rares occasions d'avoir un salaire ou d'avoir en tout cas un accès à des prébendes, à des revenus divers. C'est une question beaucoup plus large que celle de la place de l'armée.